On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Salut Gand.
Salut Jean-Luc.
Oh Chris. Comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Ouais, ça va? Figurez-vous qu'en arrivant à la radio, là, je me demandais, mais... qu'est-ce que ça sent? Ah bah si, ça y est, j'ai trouvé. Je dois vous avouer que ça commence à sentir de plus en plus l'été. Alors, je dis qu'on a tous envie de sortir de notre quotidien. Et oui, fini l'heure d'hiver. Vous savez, l'hiver, la pizza, la télé, toi et moi, hein? On a juste envie de prendre l'air et de sortir de nos quatre murs et un toit. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend son sac à main et on se met au volant de son monospace pour prétexter n'importe quel bon anniversaire dans le seul but de partager avec les potes en allant boire un verre. À l'approche des beaux jours, nous les garçons, on a beaucoup tendance à oublier qu'il y a une fille qui habite chez nous. Et on a beaucoup plus envie d'allumer un feu de joie avec les amis en trinquant à notre santé autour d'un bon dîner. En fait, ça doit être ça l'effet papillon. L'effet papillon de l'infréquentable berceuse de Paris by Night pour rester politiquement correct. L'itinéraire de mon invité ce soir serait dosé d'un doux mélange de ses chansons réalistes, gorgées d'humour, de tendresse, de tranches de vie, de désordre et de tout type de carton, mais surtout d'une bonne dose d'autodérision. Pour résumer, ce serait l'histoire d'un mec très simple qui se dépeint comme compliqué et qui chercherait le bonheur sans trop savoir où il est. Ce besoin qu'il chante si bien, inspiré d'un quotidien réaliste, saupoudré d'un humour grinçant, dans un monde d'une hypocrisie surréaliste. Sous ses airs de ne pas en avoir l'air, cela pourrait être le chanteur des petits riens, des barbecues ratés et des Tupperware oubliés lors de soirées trop arrosées. Mais avant tout ce soir, c'est un ami, un vrai, que j'ai la joie de recevoir. Un ami pour la vie, ce genre de copain que l'on croise sur le chemin et qu'il ne faudrait surtout pas trop rencontrer, de peur de ne plus jamais rentrer. Bonsoir Benabar.
Bonsoir, merci pour cette introduction.
Écoute, voilà, je me disais que c'est vrai, on se connaît dans la vie et on s'apprécie de plus en plus.
Ah oui, tout à fait vrai.
Et au cours du chemin, je trouve que cette vie, elle est belle, elle est saupoudrée effectivement de rencontres, comme tu le sais. Et puis toi, tu tiens ta route et j'adore quoi, j'adore ton personnage, j'adore qui tu es, ce que tu représentes. Comment tu vas tout d'abord?
Je vais bien, merci beaucoup.
Ouais.
Ça va pas mal, en effet, là, l'été arrive, ça fait toujours un peu du bien.
Ouais. On reste plus dedans, on s'en va un petit peu.
Exactement, et puis j'ai la chance de sortir une chanson, donc c'est toujours un peu un moment merveilleux, quoi. Comment dire, faut pas s'y habituer. À chaque fois, je suis pas du tout blasé par ça. À chaque fois que je sors un titre, de venir à la radio, de faire écouter ma musique, à chaque fois, ça m'enchante vraiment.
Oui, et puis quel titre? Parce que quand on dit elle danse, là, on est directement sur la famille. Donc, ce qui touche le plus et au plus haut point, ce sont les deux femmes de ta vie, non?
Oui, 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 il y a de ça. J'ai en effet la fille qui habite chez moi, hein, qui est toujours restée. Mm-hmm. J'ai pas réussi à la foutre dehors depuis la chanson.
Mais grand tant mieux. Voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et l'autre fille?
Et notre fille, Ludmila, qui va sur ses 16 balais et qui ressemble étrangement à la jeune fille de la chanson.
Ouais. Et c'est quand même assez bizarre. Alors avant d'aller découvrir, évidemment, ce qui fait ton actualité, eh bien, dans un instant, il va y avoir un bon dîner. Et comme tu le sais, c'était la chanson préférée de mon papa, qui lui préférait réécouter à l'époque, Nostalgie devant une pizza avec maman et lui.
On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. Toi, la télé et moi.
On roule à la cool avec Jean-Luc. Top départ pour le week-end.
On se tutoie
avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Ça m'empêche pas de me planter des fois sur scène d'ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe avec ça te voilà parce que pendant que ça tournait, tu te plantes sur les paroles sur cette chanson.
Oui, c'est assez désespérant, mais ouais. Je dois l'avouer. En la jouant ou en la chantant, je me plante encore assez souvent.
Tu perds le fil parce que les gens évidemment la connaissent par cœur et disent mais qu'est-ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils chantent. En fait, c'est ta chanson et tu sais plus où t'en es.
Exactement. Et puis c'est encore plus vicieux que ça parce que sur scène, j'essaye avec les copains qui m'entourent depuis 20 ans plus maintenant. pour certains, de cultiver aussi un joyeux bordel sur scène pour la faire courte, donc pouvoir se planter, pouvoir recommencer, parler au public, enfin de conserver cette pointe de folie qu'il faut avoir quand même sur scène.
Et un petit côté champêtre.
Et oui, exactement, et de simplicité aussi avec le public. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de maintenir.
Ouais, cette petite interaction, et je le comprends, mais de toute manière, ce qui te caractérise quand même dans tes paroles, dans tes mots et dans tes vers, c'est la proximité, on est d'accord.
Oui,
c'est vrai, le quotidien, c'est quoi. Tu t'inspires totalement du quotidien.
Oui, du quotidien. Ça m'a toujours passionné, en fait. C'est vraiment pas un calcul. Depuis toujours, je m'intéresse plus à ce qui se passe à côté de chez moi que même les grandes images poétiques, tu vois, la mer, les couchers de soleil.
Bien sûr.
Ça m'a jamais vraiment inspiré. Puis il y a le côté aussi réaliste, de la chanson réaliste, dans une tradition de chanson réaliste, parfois un peu rigolote, de chansonnier que j'adore. Et puis le réaliste, comme il y a une littérature réaliste, comme il y a des peintures réaliste, enfin quelque chose qui s'ancre dans la réalité, moi ça me
ouais, m'intéresse. Et puis qui parle vraiment dans le quotidien des gens. Alors c'est assez rigolo parce que ça commence au siècle dernier, tu commences pas du tout dans la chanson, tu commences régisseur avec Éric Barbier pour le film Le Brasier, tu commences d'abord un premier groupe avec Patchol et Barnabé. Il faut que tu nous expliques, le Barnabé ça devient Benabar, l'auditeur qui ne comprend rien du tout parce qu'en fait il sait pertinemment que tu t'appelles Bruno, se dit bon, bref, le Benabar vient de Barnabé, c'est quoi le Beans?
Alors c'est avec Patchol qui est venu habiter chez moi, il devait rester une semaine, il restait 6 mois.
Ouais. Un copain
de mon grand frère,
d'accord,
à l'origine, okay. Et qui était musicien et qui voulait chanter. Et donc j'ai commencé à lui écrire des textes, parce que moi je voulais être auteur à l'époque, scénariste, c'était vraiment ce qui m'animait. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à un peu jouer du piano, etc., etc. Puis on a commencé à jouer tous les deux dans les bistrots, en bas de chez nous, dans le 11e on était. Et puis je voulais des, il y avait un côté très chansonnier on discutait tous les deux des chansons sketch et tout ça, donc je voulais des noms de clown. Donc j'ai inventé Patchol et Barnabé, puis comme il parlait verlan, il m'a baptisé Benabar et c'est resté.
Et c'est resté. Alors après tu continues, mais ça ne vient pas du tout tout de suite la chanson, puisque tu es scénariste toujours. Alors là c'est dans les années 98, on était champion de France en football, je te le rappelle, champion du monde également, surtout scénariste de la série H. Ça, H, c'est quand même un vecteur assez étonnant pour nous, Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, et toi tu es auteur dans la série.
Ouais, avec plusieurs auteurs, notamment Eric Laven, à qui j'ai tourné après. On a participé aux 4 saisons, oui. Il y a eu plusieurs auteurs, mais il y avait un groupe très soudé d'auteurs de base dont je faisais partie.
Mais comment tu es arrivé là-dedans?
Par mon copain Jean-Paul Batani, scénariste, qui m'a branché. Puis en fait, je me suis fait virer le premier jour.
Ah.
Je m'étais engueulé avec le producteur.
Une raison particulière? Question de contrat?
Non, même pas. Le ton était monté. Et puis j'étais un peu plus jeune et puis lui aussi était assez
vif.
Assez vif.
Ouais.
Donc je me suis fait virer. Puis après ils m'ont rappelé parce que c'est les textes étaient leur convenaient.
D'accord. Alors tu continues et c'est là où il y a une page qui se tourne totalement. Ça y est, on est en 2001 et on se souhaite un bon anniversaire.
Et le temps passe d'hier en demain. Ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Mais mes pompiers au regard.
Parce que là on est quand même sur un registre de 2001 où il y a une fille en plus qui habite chez toi bizarrement. C'est ça. Eh ouais. J'adore ce côté vas-y chauffe Marcel à l'époque de Jacques Brel, parce qu'on est quand même vas-y chauffe Marcel.
Ah ouais, moi j'adore ça, j'adore les fanfares, j'adore ce côté aussi farouchement divertissement de la musique, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir quelques ambitions artistiques ou poétiques, mais l'idée de divertir, de faire du divertissement, du spectacle, avec le côté clown, tout ce qu'on
et côté
cirque,
champêtre aussi.
Exactement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, je crois, qui m'intéresse artistiquement en fait. Et encore une fois, quand on s'interroge à plein de trucs, bah tu vois, ça a cartonné le film autour de Dumas, Alexandre Dumas, c'était du divertissement. Il faisait Chaplin, c'était du divertissement, donc c'est pas du tout incompatible.
Mais alors on continue. Ce siècle ouvre les portes, bien sûr, en referme d'autres. Scénariste de la série La Famille Quentin, Les Risques du Métier, tu y arrives, et puis d'un seul coup, tu chantes. Là, c'est quand même après le monospace. Enfin, du moins, c'est la même période. Dis-lui oui.
Dis-lui oui.
J'adore.
Oh, dis-lui oui.
J'adore.
Ouais.
Parce que ça, j'ai redécouvert, dis-lui, ça vient d'où, dis-lui, oui.
Ah bah, on a tous connu un peu ça, c'est la fille qui plaque un copain, et on se dit, ça serait tellement plus facile si vous vous remettiez ensemble, sans déconner. Quand t'es justement dans ce moment entre les deux, là, c'est vraiment très difficile à vivre.
Ouais.
Où t'essayes de maintenir, en sachant que ça va être de plus en plus difficile à maintenir les deux contacts.
Mm-hmm.
Et donc, tout le monde souhaite un peu secrètement qu'ils se remettent ensemble. Et ça me parle. Et Muriel, d'ailleurs, un personnage que j'ai inventé, m'a suivi sur pas mal d'autres chansons.
C'est qui cette Muriel qui arrive sans arrêt? C'est quoi? C'est un fantasme? C'est un mythe? C'est qui? C'est ta femme? C'est ta copine? C'est ta sœur?
Voilà, c'est un peu tout ça.
Parce que Quentin, il m'a dit, mais cette Muriel, c'est qui? D'un seul coup, on se posait vraiment la question.
Pour moi, c'était vraiment la fille de mon âge, un peu de ma classe moyenne comme moi, enfin, qui, avec un nom qu'on connaît tous, une Muriel, mais... Et qui incarne ça, tout ce que tu viens de dire, justement, la copine, next door.
Le Jiminy Cricket, quoi, quelque
exactement.
Part. Il est sur ton épaule et il est là.
Exactement, exactement. Et je pense souvent à la Muriel en question en tant qu'auditrice, quoi. J'imagine un peu comme ça.
Voilà, tu pourrais nous trouver une Muriel, s'il te plaît, pour jouer. Ce serait extraordinaire. Alors, dans le côté spectacle, ça continue. Là, on est en 2004 avec Madame Édouard, la bande originale du film. Et puis, il y a un hommage qui est quand même assez bouleversant et touchant pour nous, les auditeurs et acteurs de nostalgie. C'est Mariti et Gilbert Carpentier.
Mariti et Gilbert Carpentier.
Grand hommage.
Oui.
Alors là, il y a plein de Michel. Alors il y a des Michel partout. On en a, on en a reçu ici. On va en recevoir bientôt. On a reçu Michel Polnareff. On va recevoir très bientôt Michel Jonas. On a reçu ici Michel Fugain. On essaye de recevoir tous les Michel. Malheureusement, Michel Delpech, c'est trop tard. Michel Berger, c'est trop tard. Mais il y a aussi un Michel Le Forestier qui en fait ne s'appelle pas totalement Michel. Ou alors vraiment, c'était une fin de soirée.
Exactement. Je crois que Maxime l'a bien pris.
Mais oui.
Parce qu'il continue à me parler. Oui. Et j'ai pas mis. Michel Sardou, parce qu'à l'époque, on m'avait quasiment interdit de le mettre.
Trop dangereux?
Ouais, et je regrette infiniment.
Ah, mais c'est pas possible, mais ça te ressemble pas du tout.
Mais oui, mais donc je regrette vraiment infiniment.
Tu t'es laissé avoir par tous ces gens qui sont assis là?
Exactement.
Non!
Exactement. Alors, c'est pas eux, hein, je le précise.
Oui, bah oui, depuis, tu les as quittés.
Oui, exactement. Bah,
quand t'as réalisé que finalement, Michel Sardou, ça faisait partie des bals populaires.
Tu sais, quand tu débutes, tu te laisses un peu intoxiquer, tu comprends pas trop, et je regrette beaucoup. Donc, j'ai eu l'occasion de le dire à Michel Sardou, à quel point je le respecte.
Oui, parce que les bals populaires, c'est lui, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne bien, c'est toi ça.
Et moi, j'ai toujours adoré ça, cette chanson, et d'ailleurs dans cette lignée de chansons françaises, avec le côté franchouillard que j'admets, moi, qui me plaît bien. Et même à un moment, j'avais eu, au début, c'était dans Le Monde.
Un article
où la dame me comparait à Michel Sardou. Alors moi, j'étais hyper content.
C'est d'une fierté, alors qu'elle devait te désinguer total.
Mais ouais, c'est les copains attachés de presse, ils ont dit, mais tu sais, c'est pas un compliment.
C'est
et moi, ça me faisait trop plaisir, tu vois.
Ah ouais, d'un seul coup, je suis dans Le Monde. Et t'en prenais plein la tête, c'est genre, bah voilà, c'est Michel Benabar, en fait.
Exactement.
Ah oui, ok, je n'avais pas la référence du Monde, c'est assez sympa. Et puis voilà, arrive le dîner comme on en parlait, et ça c'était un grand bonheur. Et puis, il y a une rencontre quand même assez forte, c'est celle d'un autre Michel, Michel Delpech, chez Lorette.
Michel, ça a été un coup de cœur, il manque beaucoup, familial d'ailleurs, avec sa famille, sa femme, la mienne, nos gosses. C'est un journaliste du Parisien. Qui m'a demandé un jour, qui voudrais-tu rencontrer comme chanteur? J'ai dit Michel Delpech.
C'était pas le mec du Monde.
Non, c'était pas la dame du Monde.
Dame du Monde. Ah, pardon. Non. Tu vois, ça c'est très élégant. Figurez-vous que la dame du Monde m'a écrit un article très mondain.
Ou genre, vous me comparez à Michel Sardou quand même.
D'accord. Donc là, c'était Le Parisien, on est dans la proximité, et Michel Delpech alors.
Et Michel Delpech, on s'est vu. Alors moi, j'étais vraiment admiratif de Michel Delpech, et encore une fois, de toute cette chanson dite de qualité, cette belle variété française
qui sont vraiment. Des
artistes qui racontent des trucs, qui racontent vraiment des trucs, comme Beko, comme Serge Lama. Moi, je suis fan de toute cette génération-là, qui raconte beaucoup de choses, mais sans jamais avoir abdiqué sur le côté populaire et sur le côté justement divertissant. C'est aussi le but des choses.
Les vraies histoires du vécu, quoi.
Exactement. Et avec cette envie de toucher les gens. Qui, d'ailleurs, ce qui incarne la chanson populaire elle-même, c'est essayer de réduire le nombre d'intermédiaires entre toi et la personne qui va t'écouter. Et eux, ils ont, c'est pour ça qu'ils sont aussi fait attaquer, d'ailleurs. Et Michel, ça a été un modèle, un mentor et un ami.
Qui est-ce qui s'est fait attaquer, pardon, excuse-moi,
toute cette génération-là sont pas mal fait
trop populaires.
Oui, parce que Comme si d'ailleurs on pouvait dire que populaire était quelque chose était critiquable.
Oui, oui.
Ce qui est quand même curieux, quoi.
Ah oui, c'est même très très curieux. Là où on peut plus du tout te critiquer, c'est que je pense que c'est en 2008 à peu près que sort l'effet papillon. Et là, je trouve qu'il y a plus de débat.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence.
Non, c'est l'histoire de ta vie, ça, non?
Oui, ça j'y crois vraiment à fond. Alors des fois malheureusement des négativement, mais cet effet papillon et puis le fait de le savoir aussi nous que les actes ont des conséquences, même si évidemment aucun d'entre nous n'est un saint, mais je suis parfois frappé par le besoin de certains de l'inconséquence de certains et de certaines, ça me frappe. Je le suis aussi moi-même, mais j'essaye de me corriger, je veux dire. Et l'effet papillon, c'est vraiment ça. Bah oui, si c'est un peu ce qu'on apprend à nos gosses. Hein. Si tu manges sous le pot de Nutella, tu vas être malade. Quoi.
C'est ce que t'appelles l'inconséquence.
Oui, la conséquence. Il y a des gens qui ont l'impression que ça n'aura pas de suite.
Ouais.
Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, la façon dont ils se comportent. Et encore une fois, moi, ça m'arrive de mal me comporter, hein, mais je sais qu'il y a des conséquences qui sont méritées.
Bien sûr. Et donc, il faut assumer le service après-vendu.
Exactement, exactement.
Et j'ai bien compris. Non, mais c'est bien cette lucidité que tu as. Et puis, alors après, d'un seul coup, tu rebondis sur un politiquement correct.
Ouais.
Là, c'est carrément l'envers du décor, alors.
Oui, je dis, et moi, je t'emmerde.
Oui, c'est ça.
Ce que j'ai fait de mieux. Et ça a été très compliqué, cette chanson. Parce que c'était un peu un gag, en fait, quand on l'écoute, elle est assez marrante.
Il y en a qui le prennent au premier degré, parce
voilà.
Que le deuxième degré, et toi, te connaissant quand même pas mal, cette auto-dérision dont je parlais en introduisant cette interview, il y en a d'autres qui sont carrément au premier degré et qui vont pas du tout chercher plus loin, quoi.
Voilà, et ça a débuté une complication avec les médias, enfin avec la presse notamment, parce que tout le monde avait un peu compris de quoi je parlais, puis surtout à l'intérieur, c'est ça qui avait vexé pas mal de fous rebelles, comme il y en a pas mal dans ce métier. C'est cette envie aussi de dire, bah oui, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis politiquement correct et que je t'emmerde. Tu vois, c'était aussi une façon de rappeler des valeurs avec cette période où il fallait être politiquement incorrect.
Ouais.
Et comme avait dit Charb, un grand ami qui a été assassiné à Charlie.
Bien sûr.
Et il m'a dit, bah ouais, enfin, politiquement incorrect, c'est Hitler, c'est Goebbels, c'est dégueulasse d'être politiquement... C'est bien d'être politiquement correct, quoi, d'essayer d'aimer son voisin, de dire de dire bonjour, au revoir.
Qui a dû les frustrer, c'était, ou les toucher, c'était « et je t'emmerde ».«
Et je t'emmerde ». C'est pas le truc le plus malin que j'ai fait de
voilà.
ma vie.
Voilà.
Mais
il faut y aller un petit peu plus avec délicatesse et comme dirait l'autre, doigté.
Exactement.
Mais bien évidemment, je l'ai bien compris. Alors ça continue. Alors moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est les râteaux. Mais les râteaux, on en a pris.
Oh là là, c'est autobiographique malheureusement.
Ah ouais. Et ta femme, quand elle a vu quand même que tu sortais les râteaux en 2011, elle t'en a parlé ou pas?
Non, parce que tu sais, ma femme s'intéresse qu'à la SACEM.
Ah pardon, excuse-moi, je ne savais pas.
Donc
on
peu importe ce que je chante, tu vois,
tu es un rustre. Alors là, tu es la plus douce des femmes. Voilà, voilà. Alors on continue évidemment, inspiré de faits réels, Paris by Night. Et puis après, il y a quelque chose qui me vient, que j'aime bien et qui me touche et qui nous touche, toi et moi. On se retrouve pas n'importe où, on se retrouve chez les Corses.
C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez,
là, c'est vraiment voilà une cause qui nous tient à cœur et toi et moi
oui.
Parce que il est vrai que la Corse on l'a dans nos cœurs et dans notre cœur et puis en plus avec Renault. Alors là, tu estampilles carrément la marque Benabar quoi.
Ah oui, ça a été une grande fierté, mais surtout un grand une grande émotion de pouvoir chanter avec Renaud. En plus, à l'époque, il faisait pas du tout de duo. Et c'est d'ailleurs c'est Jean-Paul Rouff qui a fait un peu l'intermédiaire. Et parce que Renaud hésitait à chanter, on est très amis avec Renaud, mais il hésitait à chanter tout simplement. Et ces deux copains corses, ils nous ont rapprochés avec Renaud parce qu'ils avaient un restaurant dans le Luberon où je passe une partie de ma vie, et Philippe et Martial. Donc ils ont compté pour moi doublement ces fameux Corses de la chanson.
La rencontre avec Renaud, à la toute base, elle se passe comment?
Pour un journal aussi, pour Rock and Folk, je crois.
Ouais.
Et on s'était rencontrés à la Closerie.
À la folle époque de Manœuvre, Philippe Manœuvre ou
Je sais plus, en tout cas c'était pas lui qui m'avait interviewé.
Donc la Closerie des Lilas, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est dans le 15e arrondissement et c'est le rendez-vous effectivement où se donnent voilà, depuis des lustres, des bons potes qui se croisent, se recroisent, voilà. Avec une mentalité un peu à la cool, baba, et on aime bien boire des coups.
Voilà, ce côté un peu à l'ancienne.
Ouais.
Voilà, mais moi j'ai toujours cultivé ce truc-là, la table, les copains, les engueulades, les rigolades, les bouteilles de vin qu'on recommande alors qu'on devrait s'arrêter. Enfin, moi c'est quelque chose qui fait partie de ma vie.
Ouais, on va en parler plus tard, bien évidemment, parce qu'on se dit tout ce soir sur Nostalgie. En tous les cas, je suis hyper heureux de recevoir Benabar. Si vous êtes sur la route du week-end ou si vous êtes sur notre podcast sur nostalgie.fr, c'est le grand Bruno, alias Benabar, que nous recevons ce soir.
Nostalgie. Sur Nostalgie, on se tutoie. Ta pub avant la pub.
Plutôt sympathique. On va... Alors là, j'ai une bonne nouvelle. On va parler de toi.
C'est mon sujet préféré. Hein,
ben voilà, ça c'est clair. Je me rappelle quand même avoir eu un sketch de Nicolas Bedos qui a dit quand même dans un sketch, je me suis surpris dans une soirée à m'ennuyer alors qu'on parlait de moi. Mon sujet favori. C'est effectivement Guy Bedos, le père de Nicolas, qui avait raconté ça un jour dans un sketch. Effectivement, c'est bel et bien Benabar que nous avons au micro ce soir et j'en suis très 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 heureux. L'on va parler, figure-toi, de ta pub à toi, c'est-à-dire de ce joli moment suspendu. C'est important, voilà, les gens qui sont proches de nous, de temps en temps, on a tendance à les oublier quand on part sur les routes avec les copains, quand l'été arrive, comme en ce moment, comme je disais, tiens, on quitte la pizza, la télé et toi. Mais en revanche, le toi, elle a toujours été là, et les toi, T-O-I, ou T-O-I, accent circonflexe T-S, eh ben ils ont été toujours là, puisque il y a ta femme et ta fille qui sont là et qui dansent autour de toi. Alors il y a marqué fondamentalement pop, joyeux, émouvant, chacun peut se reconnaître, et moi j'en suis totalement persuadé parce que toi tu es auteur-compositeur, là tu nous touches quoi.
Ah bah merci beaucoup, parce que c'est, il y a toujours ce moment de frisson quand on sort une chanson, on sait pas en fait le jugement, en tout cas la réception du public, parce que c'est pas forcément un jugement, et donc c'est, ça m'émeut que tu me dises ça, parce que le but du jeu c'est quand même de toucher la personne qui va t'écouter d'une façon ou d'une autre. Et quand on a le sentiment que ça s'est réussi, on dort un peu mieux.
Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent, là, tous ceux qui t'entourent et qui sont sur les bancs publics? Ils te disent, il y a un style, Benabar, il faut que tu le cultives, il faut que tu ailles vers autre chose, il faut les rassurer, il faut les déstabiliser, il faut les surprendre. Qu'est-ce qu'ils te disent, tous ceux qui t'entourent?
Oui, bah, ils me disent un peu tout ça, d'ailleurs, dans le désordre. C'est vrai que je crois aussi qu'il faut non pas se mettre en danger, parce qu'il faut pas exagérer, hein, je suis que chanteur, mais prendre un peu des risques artistiques, c'est-à-dire que susciter l'intérêt aussi chez les gens et surtout être au niveau de leur écoute, c'est-à-dire que je suis bien conscient de faire partie de ceux qui sollicitent le public sans arrêt. Donc il faut être à la hauteur de ça, il faut proposer quelque chose. Je crois que les gens ne nous en veulent pas quand la chanson n'est pas terrible, ils nous en veulent quand on fait ça un peu avec paresse, ou on fait ça pour le chèque, ou tu vois, ou pour une histoire d'image, faire un duo avec un tel, pour moi mon image et tout. Ça, je crois que le public le perçoit vraiment intimement.
Non mais toi, ils n'ont jamais pensé une seule seconde que tu faisais ça pour autre chose que toi et ceux que tu aimais. Et quand je dis ceux que tu aimais, c'est C-E et C-E-U-X.
Oui, exactement, c'est vrai. Je crois que les gens ont toujours perçu ça, et en tout cas, j'en suis heureux, parce que c'est la sincérité, c'est la moindre des choses qu'on doit à la personne qui t'écoute, à mon avis.
Ouais, mais s'il y a une personne intègre dans ce métier, c'est bien toi. Voilà, on a parlé, on a joué ensemble, les gens savent que tu étais dans Léo Mattei cette saison, et ça a vraiment été pour moi une belle révélation, encore plus humaine, et dans le phénomène de l'acting quelque part, parce que certes, t'es acteur aussi, tu es compositeur, tu es auteur, et tu es un petit peu touche-à-tout. Ça dérange. Il y a des gens qui autour de nous, je prends l'exemple d'un copain qui s'appelle Tom Novembre, qui d'un seul coup, on savait plus où il était, s'il était chanteur. À l'époque, il y avait le tout petit Ouistiti, où il y avait Parcours Santé sur les sentiers goudronnés, jeu de piste fléchée sans trésor à l'arrivée. Et puis, on savait pas. Moi, je l'avais vu en concert il y a une trentaine d'années au Musée Grévin. Il a été extraordinaire. Et puis, il était un peu comédien. Et puis, il était un peu chanteur. Et puis, il était au théâtre. Toi, au milieu de cet éventail-là, les gens quand même, ce qu'ils aiment chez toi, c'est Benabar et personne d'autre, quoi.
Oui, je crois. Et puis de toute façon, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs trucs. Mmh. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, de se confronter à d'autres domaines. Mais moi, ce qui compte, c'est de chanter, surtout de faire des concerts, quoi. C'est vraiment la raison et la cause de tout, quoi.
Enfin, la base, t'es un juste boutiste à chaque fois, et tu te confrontes avant tout à toi-même.
Oui, franchement, je crois, je passe ça, c'est, je sais plus qui disait ça, mais c'est génial, il faut faire sérieusement un métier qui ne l'est pas, tu sais.
Cette phrase-là, il faut le faire au sérieux sans se prendre au sérieux.
Exactement, ouais. J'y crois vraiment. Et encore une fois, par respect pour la personne qui va regarder, ou le film, ou la série en question qu'on a faite ensemble, d'aller au bout du truc, quoi. C'est mériter quand même l'attention des gens, quoi.
Ah non, mais ça, c'est le minimum. Alors, dans un instant, on va prendre, bien sûr, un auditeur, mais pour l'heure, on va écouter, évidemment, ce nouveau single, ça s'appelle Elle danse. Il y a un album, me disaient toutes les personnes qui sont sur le banc public là-bas, qui va sortir à l'automne. Ça veut dire que Monsieur Benabar va travailler cet été. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, tu sais, je t'ai parlé de ma femme et de la SACEM.
Oui. Bon. Bah, mais voilà. Oui. Et voilà. Et oui. Sa femme. Voilà. Elle a un surnom. Sa femme. SACEM.
SACEM, exactement.
Avant, c'était sa femme. Et maintenant, c'est SACEM. Alors, SACEM la joie. SACEM les enfants. SACEM plein de choses. Mais SACEM l'amour avant tout.
Oui.
Et ça sent l'amour sur Elle danse, évidemment, inspirée de ses deux femmes, son épouse et sa fille.
Elle a poussé la table basse et monté le son à fond. Il faut bien faire de la place pour virevolter dans un petit salon.
On se tutoie.
Et on profite enfin du week-end jusqu'à 20h.
Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Sur Nostalgie, Elle danse, je crois que effectivement, en plus du côté populaire et de la proximité dont on a parlé, là, on lâche la joie, quoi. On lâche la joie, il a raison, on lâche la joie.
Oui, il y avait cette volonté-là, ouais.
Tu sais que t'as le droit d'être heureux et de nous le faire partager, quoi.
Voilà. Merci.
Non, mais c'est vrai.
Oui, je sais. Et puis justement, ceux qui sont un peu comme moi, qui peuvent être facilement sombres, ont aussi besoin de ce moment-là, de se dire, allez, bon, c'est bon, on y va, quoi.
Tu es facilement sombre.
Ouais, ça m'arrive assez facilement. Ouais, j'ai pas mal de hauts, pas mal de bas. Enfin, je suis assez cyclotimique, quoi. Et ça donne envie aussi des fois de s'auto-secouer. Quoi.
Donc, ouais.
On profite de la vie, danse. Et puis c'est vrai que c'était symbolique le fait de danser parce que c'est tellement, ça entraîne les gens. Je sais pas si t'as remarqué quand on commence à mettre de la musique, tout le monde dit non, mais je sais pas danser, je veux pas danser.
Oui.
Et puis au bout d'un quart d'heure, tout le monde est en train de sauter dans tous les sens. Quoi. Mm-hmm. Il y a ce côté communicatif de la danse qu'il faut cultiver, ouais, qui me plaît bien, ouais, qui me plaît bien. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir une vision un peu des. Parce que Dieu sait si on a des raisons d'avoir le cafard quand même. Mais justement, plus on a de raisons d'avoir le cafard, plus il faut danser. En fait.
Avec tout tes hauts et tout tes bas, est-ce que ta femme a un mode d'emploi sur le Benabar ou pas? La patience. Parce que, entre guillemets, voilà, les artistes ont leur vie, ont leur phrase, effectivement, c'est une multitude d'ascenseurs émotionnels quelque part.
Oui.
On ouvre des portes, on enferme. Elle a un mode d'emploi, ta femme, du bon Benabar?
Je crois que maintenant, elle s'y est un peu habituée, mais c'est vrai que ça remue. Je suis quelqu'un de, je sais pas, transparent ou passe-partout. J'essaye avec l'âge quand même de me corriger, d'être un peu moins cinglé que je l'étais, ça peut être parfois difficile à vivre, mais j'essaie quand même d'être pas trop difficile à vivre, entre guillemets.
D'accord.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.